La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 8h42 sur Radio Classique, l'heure de retrouver notre esprit libre du lundi. Luc Ferry, bonjour Luc.
Bonjour David.
Alors j'ai dit qu'on parlerait de la loi sur la fin de vie avec vous, mais peut-être pas aujourd'hui parce que c'est un sujet qui mérite plus de temps. Donc on a le temps d'y réfléchir et vous aussi pour évoquer le sujet la semaine prochaine. Aujourd'hui, il faut s'arrêter peut-être sur ce qui s'est imposé ces 15 derniers jours dans l'actualité, ces accès de violence de la part d'individus de plus en plus jeunes, aux abords des enceintes scolaires, voire dans les enceintes scolaires, des conflits qui mélangent une dimension religieuse, communautariste, rétrograde, des comportements sexistes et bien sûr un usage absolument délirant et stupéfiant des réseaux sociaux. Dernière en date, évidemment, l'assassinat de cet éducateur à Grande-Synthe par deux mineurs. Ce qui nous intéresse en l'espèce, c'est l'éducation ou la rééducation des jeunes gens. On va voir avec vous comment la philosophie traite le sujet de l'éducation des jeunes gens. Mais avant ça, je voudrais votre avis à vous, l'ancien ministre de l'Éducation, sur les annonces de Gabriel Attal la semaine dernière.
Non, moi j'aime bien Gabriel Attal, j'ai de la sympathie pour lui. Je pense qu'il y a quand même deux choses à faire qui sont pas dans son programme, même si je souscris à ce qu'il dit, mais c'est pas suffisant. Il y a une refonte complète à faire des programmes d'éducation civique ou d'instruction civique à l'heure des réseaux sociaux et de la montée des communautarismes, enfin disons les choses franchement, de la violence islamiste. Et donc je pense qu'il y a vraiment là tout à refaire dans nos cours d'éducation civique. Et je pense que c'est très important. Si je devais faire un cours sur les réseaux sociaux, je montre je montrerai des deepfakes aux élèves, je montrerai des fake news aux élèves, pardon pour les mots anglais, mais on n'a pas tellement l'équivalent en français, même si on peut traduire, mais
des
c'est pas l'équivalent.
Des vérités alternatives.
Oui, bah, ça veut rien dire, ça c'est du québécois, mais voilà, mais bon, c'est malheureusement, là, comme toute la tech est américaine, les mots s'imposent aussi en anglais. Mais peu importe. Laissons ça de côté. Et donc, je pense qu'il y a... Les réseaux sociaux sont devenus des réservoirs de haine, de mensonges, de vérités alternatives, comme vous dites, de complotisme. Et donc, je pense qu'il y a un grand cours à faire là-dessus. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y a un cours à faire sur la laïcité, parce que une très grande majorité de nos enfants pensent que l'interdiction, par exemple, des signes religieux à l'école, c'est de l'intolérance. Voilà, ils pensent ça quasiment tous. Il y a évidemment les islamistes qui pensent que c'est la haine de leur religion, que l'athéisme et la laïcité, c'est la même chose, ce qui est une immense erreur. Mais les autres pensent que c'est intolérant. Donc je pense qu'il y a vraiment complètement à refaire les cours. Et là, je le dis à Nicole Belloubet, il y a urgence absolue à refaire ces cours d'instruction civique qui, à l'heure des réseaux sociaux et de l'islamisme, sont complètement obsolètes.
Pourtant, sur la laïcité et sur les réseaux sociaux, il y a déjà des choses qui se font, vous répondra à Madame Belloubet.
Non, il n'y a rien, parce qu'on n'explique pas. Au fond, c'est des clichés, la laïcité. On parle de l'idée républicaine avec des grands mots, mais on n'explique pas ce que c'est. Il faut expliquer que la laïcité, c'est la coexistence pacifique des religions. Si je devais faire un cours sur la laïcité, je demanderais aux élèves, est-ce que vous seriez d'accord avec une société dans laquelle il n'y aurait qu'une seule religion qui s'imposerait à toutes les autres et qui les interdirait? Là, ils disent non. Ben, comment vous faites alors pour qu'il y ait coexistence pacifique des religions? Ben, ça s'appelle la laïcité. Et je leur raconterait l'histoire des guerres de religion en France, entre protestants et catholiques. On n'a rien à envier avec Daesh, on a fait les pires saloperies au nom de l'amour du Christ. Mais c'est vrai, ça a été atroce, cette guerre de religion entre catholiques et protestants. Elle a été abominable, de cruauté, ignoble. Et comment on y a mis fin? Par la laïcité. Il faut faire comprendre ça. Là, j'ai pas le temps, je vous dis ça en trois secondes, mais je pense que ce qu'on fait, si vous voulez, la plupart du temps, tout le monde est républicain, de Mélenchon à Marine Le Pen, alors avec des grands mots, des mots valises, comme dirait Peggy, voilà. C'est pas ça qu'il faut faire. Et puis deuxièmement, je suis désolé de le dire, mais il faut punir les familles quand les enfants déconnent. Il faut quand même être très clair là-dessus. Il faut responsabiliser les familles. Et le seul moyen de les responsabiliser, c'est quand même de les rendre responsables aussi judiciairement des crimes ou des méfaits que commettent les enfants. Je veux dire, en tout cas, quand il s'agit d'enfants mineurs.
Que pensez, Luc Ferry, de la création d'internats pour élèves à la dérive en expérimentation? C'est l'objet du voyage à Nice aujourd'hui de Gabriel.
Oui.
À la natale.
Bah, les écoles de la deuxième chance, c'est ce qu'on a fait, c'est ça. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait, je peux le dire très clairement, entre 2002 et 2004, c'est très bien. Mais il y a quoi, 13 millions d'élèves en France, donc c'est epsilonesque.
Il y a une nuance entre école de la deuxième chance, parce que les mots sont importants, surtout dans le domaine éducatif. Non. Entre les internats de la deuxième chance et un internat pour élèves à la dérive, on ose imaginer que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas tout à fait la même chose.
Si, c'est le même principe. C'est quand même des internats dans lesquels on essaie de rattraper les élèves. À deuxième chance, ça veut dire élève à la dérive. C'est la même chose. Mais peu importe, c'est pas suffisant, si vous voulez. Ça va toucher une toute petite population. Je suis évidemment pour, bien sûr, puisque je l'ai fait. Donc, je vais pas être contre ce que j'ai fait. Moi-même, je suis tout à fait pour. Mais je pense qu'on a un problème massif. Et encore une fois, par rapport à la laïcité, il faut faire comprendre à nos élèves que la laïcité, ça n'est ni l'athéisme, ni l'intolérance. Et pour l'instant, ils ne le comprennent pas. Et je pense que nos cours sont complètement d'instruction civique, sont complètement obsolètes. Mais il faut aussi, évidemment, il faut aussi quelque chose qui relève de la loi et pas simplement de l'instruction ou de l'éducation. Donc, voilà. Mais à l'heure des réseaux sociaux et de la montée des communautarismes, nos cours d'instruction civique sont totalement à côté de la plaque. Victor Hugo, dans un texte magnifique que j'ai cité à peu près dans tous mes livres, enfin pas tous, j'exagère, mais dans beaucoup, fait une distinction entre l'éducation et l'instruction. Très classique. Il dit, voilà, l'éducation, c'est... Il dit le père de famille. Bon, à l'époque, on dit le père de famille parce que c'est le... Voilà, aujourd'hui, on dirait les parents. Évidemment, c'est même souvent plus la mère que le père. Souvent, dans les familles, la mère a plus d'autorité que le père. Mais enfin, laissons ça de côté.
Bah, l'éducation, souvent, quand elles sont seules, encore plus.
Bah oui, mais enfin, même quand elles sont pas seules, bah, moi, je vois chez moi, c'est quand même ma femme qui est plus autoritaire que moi. Et elle a raison. Mais laissons ça de côté, père-mère. Mais en tout cas, l'éducation, c'est les familles et l'instruction, c'est les professeurs. Et là, vous avez deux philosophies de l'éducation, et, enfin, disons une philosophie de l'éducation, une philosophie de l'instruction. Je vous dis ça très vite. L'éducation, pour nous, occidentaux, c'est juif, chrétien et grec. C'est juif, chrétien et grec. Je commencerai par les chrétiens, c'est l'amour. Ce que dit Boris Cyrulnik, il a raison. Un enfant qui n'a pas été aimé n'a pas de résilience, ou en tout cas, il en a moins que ceux qui ont été aimés. L'amour, c'est le message chrétien. La loi, c'est Moïse, et les grandes œuvres, c'est les grecs qui les inventent. Et donc, voilà, si vous n'avez pas transmis les trois, vous n'avez pas éduqué vos enfants. L'amour, la loi, les œuvres. Aujourd'hui, l'amour, on le transmet, la loi et les œuvres, non.
Comment,
ça s'effondre.
Comment voilà. Les philosophes ont-ils pris en charge la question éducative? On a tous en tête
L'Émile
et le film de François Truffaut qui recueille un enfant dans la forêt qui n'a jamais vu un être humain, on lui a jamais dit bonjour, on lui a jamais dit merci, et puis il va l'éduquer selon les principes rousseauistes. Alors ça, c'est l'appartement témoin du laxisme.
Non, Rousseau, c'est quand même très bien, mais vous avez le plus grand texte de très très loin. Si vous l'avez pas lu, lisez ça, parce qu'en plus, c'est très lisible. Ce sont les réflexions sur l'éducation de Kant. Ça, c'est absolument génial, et c'est d'une actualité merveilleuse.
Les gens n'osent pas lire Kant, alors ils écoutent Luc Ferry.
Les réflexions sur l'éducation, ça se lit. Vous avez une très belle traduction de Filonenko, vous avez une introduction de mon vieux maître Filonenko, qui est génial. Je vous résume ça en 3 secondes, mais ça mériterait plus que ça. Voilà, ce que dit Kant, c'est qu'il y a 3 philosophies de l'éducation. Il a raison, historiquement c'est vrai, au XVIIIe siècle. Il y a l'éducation par le dressage, c'est l'éducation du Moyen-Âge, l'éducation ancienne, et ça correspond sur le plan politique à l'absolutisme monarchique. Vous avez ensuite l'opposition absolue, c'est une antinomie. L'éducation par le jeu, et à l'époque on commence, vous avez Pestalozzi par exemple, vous avez des philosophies de l'éducation par le jeu où on pense que par exemple en jouant aux échecs ou en jouant au bridge ou en jouant à tel ou tel jeu, eh bien ça va former les enfants, c'est le gaming on dirait aujourd'hui en mauvais français.
Ça c'est l'époque des Lumières ?
Tout ça est à l'époque des Lumières, cette discussion apparaît à l'époque des Lumières. L'opposition, l'antinomie entre le dressage absolutiste et l'éducation par le jeu, l'éducation ludique qui va l'emporter dans la rénovation pédagogique après 68, on va être des héritiers de cette éducation par le jeu, ça correspond à l'anarchie sur le plan politique. À chaque fois, il y a un modèle politique derrière. Et ce que Kant défend, c'est l'éducation par le travail, qui est la synthèse des deux. Parce que dans le travail, l'enfant est libre quand il résout un problème. Problème, étymologiquement, c'est ce qui est jeté devant lui, l'obstacle qu'on lui met devant les pattes, si je puis dire. Eh bien, il est libre parce qu'il va affronter librement le problème, mais donc il y a le côté anarchie jeu, mais en même temps il y a le côté dressage parce qu'il y a un obstacle qu'il doit surmonter, et c'est l'éducation par le travail, et ça correspond à l'idée républicaine. L'idée républicaine, parce que l'idée républicaine, c'est la théorie de la loi. Quand je vote la loi, je suis libre, mais quand elle me retombe dessus, je suis soumis à la loi. Donc je suis à la fois libre et soumis. Je suis à la fois dans le dressage et dans le ludique. Voilà. Et ça, c'est le problème, c'est l'éducation par le travail, c'est l'idée républicaine. C'est évidemment ce que je défends depuis toujours. Mais je vous ai dit ça en 3 secondes, mais franchement, lisez ce texte qui est absolument génial. Éducation par le dressage, éducation... Alors ce que dit Kant, c'est que ça correspond aux bêtes, mais pas à un être libre. Quel enfant. Éducation par le jeu, mais si on l'éduque que par le jeu, il n'aura pas la loi mosaïque, il n'aura pas la loi. Et même si vous voulez transgresser la loi, il faut l'avoir reçue. Éducation par le travail, il a enfin les deux, il est à la fois libre et soumis. Il est à la fois libre et contraint. Et c'est en surmontant l'obstacle, par la résolution des problèmes, qu'il apprend. Et ça, c'est l'idée républicaine. Voilà. Et ça, je pense que c'est d'une profondeur abyssale. Et ce qu'on a abandonné, si mon camarade Danny Cohn-Bendit était là, il m'engueulerait. Mais ce qu'on a abandonné en 68, c'est au fond l'éducation par le travail, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup dans l'éducation par le dressage dans l'avant 68, mais du coup, on a abandonné la contrainte au profit du jeu, la rénovation pédagogique, c'est les méthodes actives, c'est que le jeu. Et au fond, il faut la synthèse des deux, la synthèse de l'antinomie, il faut revenir à l'éducation par le travail. Et ça, vous le savez bien. Je suis sûr que vous travaillez 10 heures par jour comme moi. Et c'est comme ça qu'on apprend.
Je ne veux pas me poser en exemple.
Non, mais même en mauvais exemple.
Luc Ferry, il y a aussi quelque chose qui évolue dans la philosophie, c'est la vision de l'enfant.
Oui.
À partir de quand les philosophes considèrent l'enfant comme un être à part qui n'est pas un adulte en devenir ou une chose justement à adresser?
C'est Rousseau, c'est l'Émile.
Qu'est-ce qu'il dit Rousseau?
C'est pour ça quand même l'Émile est un texte absolument génial. Rousseau est génial de toute façon, c'est un immense philosophe. On peut le critiquer, on peut ne pas aimer un certain nombre de choses chez lui, mais c'est quand même le plus grand philosophe du XVIIIe siècle avec Kant de très loin. C'est lui qui va avoir cette idée que l'enfant n'est pas les poupées russes. L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Alors pendant toute l'éducation du Moyen-Âge, l'enfant est considéré comme un adulte en miniature. Est-ce que Rousseau...
Il est d'ailleurs peint comme ça.
Il est peint comme ça, absolument. Hein. Poupée russe, c'est la philosophie des poupées russes. C'est un adulte en miniature et donc on attend qu'il pousse. Alors que ce que Rousseau va découvrir, puis ce sera repris après par toute la psychologie de l'enfance, notamment par Jean Piaget, c'est que l'enfant, il a une pensée à lui, il a une manière de penser à lui, il a une autonomie à lui, il a des spécificités à lui qui n'ont rien à voir avec celle de l'adulte en miniature. Et ça, c'est vraiment le génie de Rousseau. C'est la naissance de ce que la psychologie de l'enfance, Piaget, va avoir de meilleur, c'est-à-dire essayer de comprendre la logique des enfants qui n'est pas celle des adultes. Et ça, c'est d'une profondeur abyssale et c'est surtout très vrai.
Luc Ferry, c'est notre esprit libre du lundi. Je voudrais qu'on termine avec Don Giovanni, Don Juan. Glénat vient de publier, oui. L'éditeur vient de publier sous votre direction le deuxième tome des aventures de Don Giovanni, ou de Don Juan plus exactement, directement inspiré par la pièce originelle de Tirso de Molina, 1630. Don Juan est devenu un mythe, une figure suspecte. Quel est votre regard à vous sur ce personnage et pourquoi vous intéresse-t-il?
Alors, c'est pas sous ma direction, c'est moi qui ai vraiment écrit la chose, parce que j'adore le personnage de Don Juan, tel que Tirso de Molina, un moine espagnol du XVIIe siècle, l'a inventé. Je vous dis ça en 2 secondes aussi. Chez Molière, Don Juan est un libertin. Vous le savez comme moi, au XVIIe siècle, il y a un immense courant dans la littérature du XVIIe siècle, qui est le courant libertin. Et donc, c'est au fond un 68ard avant la lettre. C'est un jouisseur, c'est un épicurien. D'ailleurs, Sganarelle lui dit, vous êtes un pourceau épicurien. Et donc, tandis que le premier Don Juan, c'est Tirso de Molina qui l'invente, donc ce moine espagnol du XVIIe siècle, c'est une figure du diable. Il ne séduit pas les femmes pour jouir de la sexualité. Il séduit les femmes pour leur faire du mal en les abandonnant. Donc c'est une figure du diable. C'est infiniment plus profond. Il faut vraiment lire la pièce de Tirso. Et moi, ma BD, elle est partie de la pièce de Tirso.
Mais pourquoi il fait ça?
C'est un moine. Qui ça, Don Juan?
Ben oui.
Ah, pourquoi il fait ça? Parce que c'est une image du diable. C'est une incarnation du diable. Que veut le diable? Le diable veut faire du mal. Le diable veut séparer les mortels de la colonne de salut qu'est la foi, le rapport à Dieu. C'est
donc
ça, le
si
diable.
Donc si Don Juan déshonore les femmes, voilà. C'est bien pour insulter la morale religieuse.
C'est plus que la morale religieuse, c'est la métaphysique religieuse, c'est le salut. Il veut perdre les mortels, les envoyer chez le diable. Et donc, il veut leur faire du mal. Et donc ça, si vous voulez... C'est pas faire du mal. Moi, j'adore les chats, mais quand le chat bouffe une souris, il fait du mal à la souris. Mais il y a une différence entre faire du mal et prendre le mal comme projet. C'est pas la même chose. Le diable prend le mal comme projet. Et le premier Don Juan, celui de Tirso, il prend le mal comme projet. Quand il séduit la petite paysanne, il est fou de joie parce qu'il dit à Sganarelle, c'est merveilleux, je vais pouvoir l'abandonner. Voilà. Alors, dans la première version, il s'appelle pas Sganarelle, mais peu importe, son valet, il dit, c'est merveilleux, vite, prépare les chevaux, nous partons demain à l'aube, elle est folle amoureuse de moi, je vais pouvoir l'abandonner, elle va être malheureuse.
C'est marrant parce que dans la, enfin, c'est marrant, c'est curieux parce que dans l'esprit, l'inconscient collectif, Don Juan séduit pour prendre et non pas pour laisser.
Oui, mais il laisse, chez Molière, c'est un libertin, il laisse pour courir de femme en femme. C'est un consommateur, vous voyez. C'est un jouisseur consommateur, donc il passe de femme en femme. Mais il abandonne les femmes pour passer à une autre, mais c'est pas spécifiquement pour leur faire du mal. Tandis que le Don Juan diabolique de Tirso séduit les femmes pour pouvoir les abandonner parce que ça va leur faire un mal de chien, si je puis dire. Et c'est, il se réjouit du mal qu'il fait. Il prend le mal comme projet. Évidemment, c'est pas un hasard si c'est un moine, un prêtre, qui invente ce personnage. Et évidemment, il termine dans les enfers lui-même avec le commandeur. D'ailleurs, le premier Don Juan, pardon, la pièce de théâtre de Tirso s'appelle L'abuseur de Séville.
Luc Ferry, merci, à lundi prochain.
Je parle trop vite.
Non, vous parlez trop bien. Merci, on va se quitter avec un extrait du Don Juan de Mozart, duo
sublime.
Entre Don Giovanni et Zerlina. À la semaine prochaine, Luc.
Merci, David. Io con